Alors David Chauvel, bonjour. Donc, nous sommes ici parce que tu as une actualité assez chargée entre le troisième tome de Wolodrin, la sortie d'un one-shot dans la série Les 7, donc sur les 7 pistoleros, et je dirais une série que tu coordonnes, World War 2.2 ou l'autre Seconde Guerre mondiale. Alors commençons dans l'ordre. Wolodrin, donc une histoire d'heroic fantasy, où à partir de tome 3, tu mets en scène un duo pour le moins assez étonnant entre une guerrière humaine et un guerrier orc, que tu as déjà mis en scène. Alors j'ai commencé par le début, par ce qu'on peut considérer comme un épisode pilote, le tome des 7 voleurs, et ensuite une série où tu fais une histoire à chaque fois en 2 tomes. Alors à travers ça, est-ce qu'il y a la volonté, j'irais, de t'amuser avec les codes propres à l'heroic fantasy de Tolkien, en montrant différentes peuplades et les préjugés qu'on peut y avoir, et en même temps, je dirais, montrer les préjugés qu'on peut avoir par rapport à l'autre et à la vision qu'on en a?
Ouais, c'est les deux, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on puise dans un répertoire extrêmement classique, qui est celui de Tolkien, qui est celui que nous, on connaît et qu'on aime, Jérôme et moi, et qu'on a longtemps eu comme en projet d'adapter en bande dessinée, jusqu'à ce qu'une personne mal intentionnée s'en occupe et fasse des films avec. Et donc on puise vraiment dans ce vivier-là. Et puis bien entendu, il s'agit aussi d'apporter une touche personnelle. Donc on a essayé d'amener le récit en partant sur des bases classiques vers des choses plus inattendues, plus originales, et puis un regard un peu nouveau sur le genre.
D'accord. Là, on en est au troisième tome, donc ça sera à nouveau un diptyque. Le deuxième, j'imagine la suite et la fin sortira l'année prochaine. Alors, quelles contraintes ça fait justement au niveau de la quantité de travail à fournir, d'autant plus que le dessinateur vient de commencer une série, toujours sublime d'un point de vue graphique, chez Glénat, à forte tendance, vraiment entre guillemets, peplum, vu qu'on joue sur les mythes grecs.
C'est pas un problème, étant donné que Jérôme, il est comme moi, il a une vingtaine d'années de métier, et aujourd'hui il travaille suffisamment vite pour faire 2 albums par an. Ouais, il a beaucoup. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sa technique, c'est quelqu'un qui s'est énormément remis en question quasiment à chaque album. Hein. On a fait une quinzaine d'albums ensemble, et à chaque album je le voyais vraiment sur l'ouvrage. Remettre le métier, et donc il a aujourd'hui ce gros travail technique qu'il fait est très payant pour lui, puisque ça lui permet vraiment, voilà, en faisant 2 albums par an, un album en 6 mois et quelques, donc ça fait vraiment beaucoup de pages par mois, tout en ayant un niveau de qualité vraiment étonnant. Et donc moi, au niveau scénario, ça c'est pas une contrainte spécifique, au contraire, le fait de travailler des intrigues en diptyque, c'est-à-dire une centaine de pages, permet à la fois de développer une vraie histoire, ce serait évidemment beaucoup plus frustrant, et on n'aurait pas les mêmes possibilités narratives si je devais faire des histoires plus courtes, des one-shots par exemple. Et en même temps, c'est pas non plus trop long, ce qui fait que c'est pour nous assez agréable de boucler en deux, et je pense que c'est un plaisir que le lecteur retrouve également.
Alors, chose amusante, que ça soit à travers Wolodrin ou à travers les 7 pistoleros, on voit, pour ainsi dire, un amour pour l'Ouest, pour cet aspect justement des grandes étendues, du côté, je dirais, un peu règlement de compte, un peu pionnier. Ça se retrouve, je dirais, tant dans le premier Wolodrin que dans le deuxième, où on peut tomber sur le mythe du convoi. Dans le premier, c'est un peu la quête, le contrat, et puis l'énorme règlement de compte à la fin. Et dans cette pistolero, où là, je dirais, tu t'amuses plus concrètement justement avec les mythes de l'Ouest, du western spaghetti, et de l'image justement qu'on peut avoir des duellistes, enfin surtout dans ce cas-là des pistoleros, donc des hommes qui vivaient par leur arme jusqu'au bout.
En fait, j'ai 41 ans, et j'ai été, comme beaucoup de gens de ma génération, bercé par le western à la télévision, à l'époque où ils en passaient énormément. Donc c'est vrai que quand on a mangé tout au World Hawks, John Ford, tout, bon, un sacré paquet de John Wayne, et tous les westerns des années 50, 60, jusqu'aux années 70, et puis jusque, on en parlait, jusqu'au western spaghetti. C'est évidemment quelque chose qui a fortement marqué mon imaginaire, et donc qui ressort aujourd'hui en bande dessinée. C'était pas dans Wolodrin l'utilisation comme ça, la petite connotation western était, c'était pas voulu au départ, c'était pas intentionné, mais c'est venu comme ça dans le récit. Et c'est vrai qu'après, une fois que cette option-là a été prise, j'ai tiré sur la pelote, en fait, petit à petit. C'est pas quelque chose qui va durer, on l'avait un peu dans le premier, avec cette approche du peuple orque qui faisait, pour certaines personnes, penser aux Indiens des plaines. avec le convoi de pionniers de l'histoire suivante. C'est pas quelque chose qui est appelé à durer puisque voilà, je suis déjà en train de préparer le diptyque suivant sur Volodrine et on va prendre une option différente. En ce qui concerne cette pistolero, bon voilà, c'est quand même c'était à la base un scénario qui m'a été proposé par Bastien Ayala et à qui j'ai proposé de le retravailler ensemble à quatre mains. Et qui était vraiment alors un hommage total, pour une espèce de preuve d'amour du western spaghetti du plus connu, c'est-à-dire la trilogie des dollars de Sergio Leone, jusqu'aux films les plus obscurs, connus uniquement quelques Italiens et des spécialistes en France. Et justement, c'était l'intérêt de le retravailler à quatre mains, c'est que je pense que Bastien était à la fois, il avait plein d'idées formidables, mais il était peut-être un peu prisonnier de sa culture et de sa grande connaissance du genre et de son envie d'y mettre énormément de choses. Et le fait que moi je sois plus profane et que j'ai finalement la culture moyenne, c'est-à-dire j'ai dû voir un Trinita et puis j'ai vu l'intégralité des films de Leone, permettait d'avoir plus de recul et certainement une approche plus proche de celle des gens qui allaient ensuite lire le livre.
Alors, autre actualité sur le feu et grand coup de cœur en ce qui me concerne, la série World War 2.2 chez Largo, qui donc imagine une autre Seconde Guerre mondiale. Alors dans ce cas-là, première question, ça va être tout simple, pourquoi le premier ?
Parce que je m'y étais jamais frotté. Et subitement, je ne sais pas comment cette idée est venue, parce que c'est le genre d'idée, on peut pas. C'est pas une idée qui arrive de manière fracassante et définitive, et puis on décide d'embrayer et de rester dessus, et puis on tire sur la pelote, comme je disais tout à l'heure. Non, là, c'est une idée qui est venue par petits bouts. Petit à petit, elle a dû une fois me passer par la tête, et puis elle est repartie, c'est revenu trois jours après, j'y ai repensé une semaine après, à un moment est venue l'idée de la mort d'Hitler, et puis de me poser la question, mais alors qu'est-ce que ça changerait ? Et donc je me la suis posée à moi, qu'est-ce que ça changerait si Hitler mourait au tout début de la guerre, enfin avant que la guerre est déclarée, mais elle n'est pas vraiment commencée. C'est-à-dire que la Pologne est envahie, mais les hostilités n'ont pas commencé entre les Allemands et les Alliés. Je me suis dit, qu'est-ce que ça changerait s'il mourait à ce moment-là ? Ça m'a intéressé de réfléchir à ça, je trouvais ça amusant. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, si ça m'amuse, si ça m'intéresse, ça devrait pouvoir intéresser les autres. Et finalement, c'est une uchronie qui est différente, en tout cas de certaines qu'on a vues en bande dessinée récemment, qui, elle, change un paradigme et puis ensuite analyse toutes les conséquences et invente une autre histoire. C'est-à-dire on va vers des choses complètement inconnues, complètement nouvelles, et c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce genre du chronique. Celle-là est différente puisqu'en fait elle rejoue quelque chose, elle refait quelque chose qui s'est déjà fait, mais elle le change, en changeant cet élément, elle le change légèrement et en même temps tout de même profondément, puisque le fait de changer, de faire mourir Hitler change le tout début de la guerre. La France n'est pas envahie complètement, il y a une guerre de front, une guerre de position qui s'installe, et puis à partir de là tout est changé. C'est-à-dire l'Allemagne n'ayant pas pu conquérir la France, tout est changé, elle peut difficilement se retourner contre les Russes, les options militaires vont être différentes, les alliances vont être différentes, les Japonais ne vont pas se battre, ne vont pas déclarer la guerre aux Américains, ils vont au contraire essayer de prendre leur revanche sur la Russie, etc., etc.
Et l'alliance russo-allemande ne va pas être mise en cause.
Non, elle ne va pas pouvoir être mise en cause, bien au contraire, ils vont envahir la Grande-Bretagne par l'Écosse,
oui.
En plein hiver.
Bon,
voilà, donc des choses amusantes comme ça, et puis voilà, donc je suis parti de là, j'ai tiré la pelote, et puis je l'ai proposé aux copains scénaristes qui ont trouvé ça amusant, et du coup on est parti là-dessus.
D'accord, alors c'est une série qui est en gestation depuis combien de temps ?
Alors ça fait 4 ans.
4 ans,
ans, et une
donc,
fois que
entre l'idée et la réalisation,
ouais, ah ouais. Une fois que j'ai eu posé les bases, j'ai travaillé sur ma chronologie de la guerre. J'ai fait un document qui est une chronologie détaillée qui fait une soixantaine de pages et que j'avais prévu de faire pas peu de temps, mais j'avais dû prévoir de travailler 3 mois dessus, et en fait j'ai travaillé 8 mois parce que c'était extrêmement long, parce que chaque option que je prenais, sur chaque, je n'étant pas un spécialiste, sur chaque conflit, dans chaque pays, etc., devait être vérifié par mes sources. Et donc j'y ai passé énormément, énormément de temps. Et une fois que j'ai eu terminé ce long document de 60 pages, je l'ai fait passer aux scénaristes qui, à l'intérieur, ont choisi chacun de raconter un événement de cette guerre. Et ensuite, on a tout réordonné de manière chronologique.
Je te dis ça, parce que vu que l'Uchronie marche énormément dans la BD actuellement. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a toujours la question qu'est-ce qui arrive en premier, le fou, la poule ou Jean-Claude Van Damme. Mais quand est née l'idée, comment celle-ci se concrétise. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, vu qu'on a nous, on voit le produit fini,
oui,
qui arrive, pour ainsi dire, sur les étals.
Ben oui,
et on ne voit pas finalement tout le temps de maturation pour que l'idée se concrétise finalement en album, en livre.
Ah oui, oui. Bah, l'idée,
enfin,
c'est,
en
c'est, ouais, l'idée, c'est carrément 5 ans, il y a 5 ans, et après, c'était il y a 4 ans, j'ai commencé à travailler, et c'est sûr que là, on n'avait pas vu apparaître des séries comme Jour J, on n'avait pas encore vu Bloc 109. Donc moi, je ne savais pas du tout que j'allais mettre les pieds dans quelque chose qu'on allait voir beaucoup en librairie entre temps. C'est le risque, hein, c'est comme, je ne sais pas, quelqu'un qui, il y a 4 ans, aurait commencé à travailler sur une série de zombies. Le gars, il pouvait pas prévoir
le phénomène zombie.
Et après, une fois qu'on a signé des livres et qu'on est en train de les faire, on ne peut pas les arrêter comme ça. Donc voilà, bon, heureusement, c'est différent. Je sais que dans Jour J, il ne traite pas du tout de la Deuxième Guerre mondiale. Bloc 109, c'est quand même une option différente. Il y a du fantastique, etc. Donc ça va, on fait pas des choses semblables. Mais les gens ressentent comme ça, en effet, quand tout arrive dans à la sortie de l'entonnoir, il y a une espèce d'effet de multiplication. Je lisais justement tout à l'heure une chronique sur Bachalot, qui est un livre que j'ai publié aussi, qui est sorti cette semaine, qui parle de la déportation des Roms. Et c'est quelqu'un qui disait aussi, ah bah oui, encore un livre sur la déportation, etc. Bon, ce qui se passe, c'est que c'est pareil, les auteurs, ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur ce livre, et donc ils peuvent pas savoir dans quel contexte le bouquin va paraître. Et puis avec 5000 bandes dessinées par an, les années s'ajoutant aux années, au bout d'un moment, forcément.
Ce que j'ai beaucoup aimé justement dans cette œuvre, c'est la mise en avant de George Elser, donc qui a tenté à plusieurs reprises d'assassiner Hitler à coups d'explosifs, et dont le rôle a finalement été reconnu effectivement il y a très très peu de temps. Il y a toute cette lente mise en place qui, pour ma part, est aussi une parabole par rapport à la drôle de guerre, où du côté des démocraties, il y a justement l'attente du choc, parce que toute notre stratégie était faite là-dessus, et où tu montres que, in fine, si défaite il y a, je dirais, c'est avant tout une défaite intellectuelle, tant des généraux que des politiques, de ne pas avoir su comprendre comment la bataille se déroulerait, et surtout que celle-ci n'irait pas dans la logique à laquelle ils s'attendaient. Et des petits clins d'œil. Il y a une scène justement où tu mets deux soldats, un qui réussit à en convaincre un autre pour aller se barrer dans Paris, pour aller soi-disant brûler des lettres d'amour, et en fait on se rend compte que le type appartient à un parti fasciste français, chose qu'on a aussi tendance à oublier, tous ces petits groupuscules très nasillons. On retrouvera bon nombre de types, j'allais dire, dans la collaboration, et très peu, mais il faut le souligner aussi, dans la résistance, qui viendront avec leur réseau et leur équipement. Et où, in fine, ces types-là tombent sur les premières colonnes allemandes, où quelque part, on se dit que l'armée française stoppe l'armée allemande grâce à un nazillon français qui vient sonner le tocsin.
Exactement. Il sauve Paris et il sauve la cause des alliés à l'insu de son plein gré. Il y a eu ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai travaillé sur ce sujet, c'est qu'il y a une reconstruction intellectuelle, philosophique, française autour de la Deuxième Guerre mondiale, qui est quand même pavée de mensonges. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre il y a quelques années là-dessus, dont le titre était 100 000 morts sur le front, enfin qui expliquait qu'en fait la drôle de guerre, cette guerre qui n'a soi-disant pas lieu, avait quand même fait 100 000 victimes parmi les soldats français. Il y a 100 000 gugus qui sont morts pendant la drôle de guerre, il y en a certains, il y a des bataillons entiers qui se sont sacrifiés notamment pour permettre le réembarquement des alliés vers l'Angleterre. Et aujourd'hui, plus tard en tout cas, la France nous fait croire, parce que je sais moi j'ai été surpris par ce que j'ai vu, et quand on en parle à des gens, ils sont également surpris quand on leur dit, est-ce que vous savez qu'il y a 100 000 personnes qui sont mortes pendant cette fameuse guerre qui, un, soi-disant n'aurait pas eu lieu, deux, aurait vu les Français partir en courant, jeter leurs casques et leurs fusils, partir en courant en disant oh là là, on veut pas se battre. Ben, il y en a quand même 100 000 qui sont morts. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette reconstruction? C'est parce que je suis pas un grand spécialiste, mais j'ai eu l'occasion d'y réfléchir, il y a quand même à cette époque se pose un gros problème d'idéologie politique droite-gauche, de conflit droite-gauche qui perdure et qu'on retrouve aujourd'hui. La France de l'avant-guerre, c'est quand même la France post-Front populaire.
Oui.
Les grandes avancées sociales, la victoire entre guillemets des prolétaires, des socialistes. Et il y a une grande partie de la.
Le début du réarmement est dû au Front populaire. C'est le Front populaire qui nationalise en fait les usines et qui impose une certaine logique dans la construction, que ce soit des blindés, des armes et autres. Logique que récupéra justement la droite en revenant au pouvoir après le Front populaire. Mais pendant longtemps, il y a souvent eu cette image un peu fausse aussi, que si on avait perdu, c'était à cause de la gauche qui,
voilà.
qui était pacifiste, c'est exactement qui voulait pas en entendre parler.
Voilà, sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y avait donc une grande partie de la droite française qui préférait les Allemands au Front populaire. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont voulu cacher après la guerre. Et donc, ils avaient tout intérêt à réécrire l'histoire pour que ça ne se sache pas. Ce qu'on a appelé plus tard le parti de la défaite, et qui était notamment... Parmi eux, il y avait beaucoup de généraux, il y avait des hommes politiques, et puis il y avait évidemment Pétain au sommet de la pyramide. Ce parti-là a eu évidemment tout intérêt, après la guerre et après la défaite, et une fois que les choses n'ont pas tourné comme ils voulaient, après la victoire des Alliés, à réécrire l'histoire de façon à se retrouver du bon côté du manche. Pour moi, c'est une manipulation, et c'est aussi un peu de ça que parle le livre.
Alors, bouquin, on l'a dit, très bien documenté, très très joli graphiquement, donc complet en 7 tomes. Finalement, comme tu dis, on arrive à faire le tour sans avoir une série en une trentaine de tomes. Je songe en fait à une expérience japonaise, qui est un manga qui s'appelle Zipang, qui reprend un peu les tenants et les aboutissants de Nimitz en faisant voyager un navire des forces d'autodéfense japonaises de nos jours, la veille de la bataille de Midway, où les types, bon gré mal gré, vont changer l'histoire.
D'accord.
Et où dans le sens, il y a un début de questionnement de la part de l'auteur, mais pas trop, parce que c'est vrai que c'est compliqué au Japon, sur l'aspect, quel est le rôle finalement du Japon, et une autre voie était-elle possible. On met en scène en fait, mais c'est très très lent, ça fait 43 volumes, le fait qu'il y avait un parti de la paix qui œuvrait en sous-main pour tenter... De faire tomber les militaires et de négocier une paix séparée avec l'Amérique. Le problème, c'est qu'après Pearl Harbor, et au fur et à mesure qu'on avance, ça devient de plus en plus difficile à mettre en œuvre.
Ben, tout à fait, mais moi j'ai pas non plus voulu, entre guillemets, venger la France, c'était pas ça l'idée, donc j'ai pas voulu faire, je sais qu'il y a des gens qui le font, et puis c'est une tentation qui est réelle, c'est de se dire, bon, la France a rendu les armes, j'ai envie de réécrire l'histoire, on va venger cet affront, et on va les faire continuer à se battre, et on va continuer cette guerre. Moi la question était pas là, la question était, vraiment, je suis parti d'un point A, Hitler est mort, et après j'ai tiré la pelote d'une manière qui était évidemment pas neutre, parce que la neutralité n'existe pas, mais qui me semblait à moi la plus logique, et j'ai envie de dire sans que je prenne parti. C'est un peu comme j'ai fait tomber un domino, puis après j'ai regardé où est-ce que ça me menait, mais j'ai pas eu la sensation de prendre de décision, et en tout cas pas de décision orientée politiquement forte, où je me disais alors là il y a une injustice que je veux réparer, ça j'ai pas envie que ça arrive, ça me plaît pas, etc. Non, j'ai essayé entre guillemets de suivre le fil de manière la plus logique possible, et puis après voilà, on a fait 7 bouquins, on pouvait en faire 17, 77, enfin c'est une... On imagine que 4 ans de guerre, c'est évidemment, ça laisse la possibilité des centaines, des milliers de récits, mais enfin, il fallait se limiter. Donc on a pris à chaque fois un soldat d'une nationalité différente. Donc le premier racontait le destin d'un soldat français, le deuxième sera celui d'un soldat allemand, le troisième d'un soldat anglais, etc. etc.
D'accord. Eh bien, écoute, en tout cas, ça va nous promettre des heures de lecture diablement réjouissantes, enfin, surtout pour le fan du chronique Jossi. Et ce que je te propose, c'est qu'on prenne pour ainsi dire d'ores et déjà rendez-vous pour une rétrospective une fois que la série sera complète.
Eh bien oui, rendez-vous dans un an alors.
Ok, merci beaucoup.
Merci.
Et bon courage pour la suite de tes projets.
Merci.